OK, donc bonjour à tous. Et on va commencer ce second cours sur lequel on va poursuivre la série des expériences qu'on avait fait la dernière fois, où on va s'intéresser plus spécifiquement aux méthodes électrochimiques. Et je vais vous montrer que cette méthode électrochimique, eh bien, elles sont riches d'informations, tant au niveau des matériaux que des électrodes, que des cellules. Mais vous verrez que lorsqu'on doit les appliquer à des systèmes, eh bien, on aura des difficultés. Et vous allez voir, durant ce cours, dans lequel vous allez retrouver toutes les bases qui vous sont nécessaires pour tester, je dirais, des batteries, eh bien, ces méthodes électrochimiques peuvent nous apporter de grosses informations. Alors, quel est le problème ? Eh bien, on est toujours en train de chercher la source de défaillance dans ces accumulateurs. Source de défaillance qui est liée à, des fois, la dissolution du métal, à la positive, qui va être liée à la SEI, la formation de dendrites, et également des fissures au niveau des électrodes. D'où, pour tenter de comprendre tout cela, eh bien, on a toutes les techniques de diagnostic dont je vous ai mentionné la dernière fois. Et aujourd'hui, on va se concentrer plus spécifiquement sur les techniques de diagnostic qui vont être électrochimiques. Et je terminerai également par les techniques de détermination de pression pour contrôler l'épaisseur de ces couches, et ainsi de suite. Alors, je vais directement commencer par les bases d'une courbe électrochimique et ensuite introduire tous les différents termes. Alors, une courbe électrochimique, eh bien, lorsque tout était idéal, eh bien, ça serait un système avec 100% d'efficacité énergétique sur laquelle la charge et la décharge eh bien, se superimposeraient. Mais malheureusement, il y a des problèmes d'impédance, c'est-à-dire que lorsqu'on va décharger notre cellule électrochimique, on va introduire une impédance et on a ce qu'on appelle, comme indiqué ici, une polarisation qui est également appelée dans certains cas comme hystérèse, et on reviendra beaucoup plus sur ce point. Et cette polarisation ou cette hystérèse, eh bien, elle va dépendre des différentes conditions. Ces conditions, eh bien, si je vais augmenter le courant, automatiquement, mon terme IR va augmenter. Si je vais baisser la température, je vais avoir un système qui va devenir plus résistant vis-à-vis de la mobilité des ions. Je vais également augmenter ce terme d'hystérèse. Et enfin, l'interface résistive, lorsqu'on va, dans ce cas, eh bien, créer des couches de surface au niveau des électrodes. Alors, au jour d'aujourd'hui, on travaille beaucoup, bien sûr, sur le lithium-ion, et je vais vous montrer comment, quelles sont les étapes clés, ou les maillons, pour construire ces batteries lithium-ion. La première chose qu'il faut que vous preniez en considération, c'est qu'une batterie lithium-ion n'a pas, je dirais, d'excès de lithium. C'est-à-dire que dans ce cas, la règle simple, il va falloir balancer, si je peux dire, la capacité d'électrode positive et la capacité d'électrode négative, comme indiqué ici. Et il va falloir faire cela en faisant en sorte qu'aucune de ces électrodes n'aille trop bas en potentiel pour avoir du dépôt de lithium et également aucune n'aille trop haut en potentiel. D'où on fait ce qu'on appelle des mesures aux trois électrodes, dont vous avez ici un schéma. Et qu'est-ce qu'on va enregistrer ? Un enregistre, comme vous voyez en haut, dans lequel, dans ce cas, j'ai pris un rapport d'électrode positive sur l'électrode négative de 1,9, et vous avez la variation du potentiel de l'électrode positive en pointillé, de l'électrode négative en bas en pointillé également, et la cellule complète en noir. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que dans ce cas, regardez, on ne s'arrête pas loin de 0 volts, et ça, ce sera un point relativement important. Ensuite, on peut ajuster à 25 degrés, et à 55 degrés, vous savez qu'en ce cas, il va y avoir des aspects cinétiques qui vont modifier cette hystérèse, et ces potentiels vont être également un peu différents. D'où, ça c'est une étape, je dirais la première étape lorsqu'on fait un système. Ensuite, il y a le problème de sécurité. C'est-à-dire, comment faisons-nous pour s'assurer que si je détermine un rapport, eh bien, je ne vais pas avoir la croissance ou le dépôt de lithium. Et pour cela, eh bien, je vais continuer mes mesures à ma série 3 électrodes et je vais ajuster les différents rapports d'électrode positif et d'électrode négatif. Vous voyez, en ce cas, j'ai un rapport de 2,7 et vous voyez directement que là, aucun problème, j'arrive réellement dans le dépôt de lithium. Si je vais à 2,3, je suis encore dans le dépôt de lithium. 2,1, là, je suis dans un régime qui est théoriquement parfait, mais théoriquement parfait, la difficulté que si maintenant je veux avoir un système qui aille se comporter en charge, c'est-à-dire vitesse de charge rapide, n'oubliez pas que je vais encore augmenter la polarisation, d'où, si vous voulez, je veux quand même avoir, je dirais, une certaine liberté et être relativement prudent. Donc c'est la raison pour laquelle on choisira entre ces deux rapports selon que je veuille faire excusez-moi, une batterie de puissance ou une batterie d'autonomie, on ajustera tout simplement ces rapports différemment. Donc voilà, si vous voulez, comment on assemble une batterie à ion lithium. Et ça, malheureusement, eh bien, ça va aller avec finalement la paire d'électrodes positives et négatives que vous allez utiliser. Si maintenant, je vais changer, par exemple, d'électrode, je vais prendre une électrode négative qui est différente, je vais prendre dans ce cas eh bien, une électrode de graphite, eh bien, vous allez voir que dans ce cas, eh bien, je vais être obligé de balancer cette cellule avec des rapports différents. C'est-à-dire que maintenant, le graphite ayant une capacité plus grande que les carbones initiaux qu'on utilisait dans les batteries à ion lithium, on va être obligé de prendre un rapport plus grand, 2,9, bien sûr, pour avoir beaucoup plus d'énergie dans notre accumulateur. Et là aussi, on peut faire des mesures 3 électrodes, et ces mesures 3 électrodes, on peut aller encore plus loin, on peut les faire ou les contrôler en JTT. Alors en JTT, c'est quoi ? Galvanostatic Intermittent Titration Techniques. Ça veut dire tout simplement qu'en ce cas, eh bien, je vais contrôler le courant et je vais suivre les variations directement du potentiel. Et vous voyez ici les courbes pour l'électrode, dans ce cas qui est l'électrode positive, en rouge, vous voyez pour l'électrode négative et en vert pour la cellule complète. Et vous voyez finalement que dans ce cas, eh bien, il y a une polarisation plus importante, ce qui est normal, qui est la somme des deux, pour la cellule complète. Donc voilà, si vous voulez, les genres de mesures que l'on fait. Alors ces mesures de JTT, eh bien, elles sont, je dirais, relativement intéressantes, car elles nous permettent finalement de voir quelle va être cette polarisation, comme indiqué ici. Et ça, c'est des mesures relativement rapides, où dans ce cas, eh bien, vous allez envoyer directement une pulse de courant et vous allez regarder, je dirais, la chute en potentiel et voir comment cette chute au potentiel se passe. Mais un point aussi très important, c'est lorsqu'on fait ces mesures, on peut tout simplement, lorsqu'au changement de courant, connaître la variation de la résistance de la cellule, comme indiqué ici. Et ça, je dirais, c'est des mesures qu'on ne prend pas assez souvent. Enfin, vous voyez, ça, c'est des systèmes, je dirais, avec des cinétiques rapides. Par contre, comme indiqué dans cet encart ici, eh bien, on peut avoir des systèmes qui ne vont jamais revenir à cet équilibre, malgré qu'on attende des mois, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a des systèmes dont l'hystérésis est plutôt de nature thermodynamique, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on passe par une phase métastable et on reste dans cette phase métastable pour, je dirais, des mois, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les deux types de situations que vous pouvez rencontrer. Mais là aussi, un message, c'est lorsqu'on fait, je dirais, ces genres de courbes électrochimiques, que ce soit des JTT ou même des cyclages, il serait intéressant, et on ne le fait pas assez, de déterminer quelle est la résistance électrode et comment celle-ci varie au fur et à mesure de ce cyclage. Donc ça, si vous voulez, la technique qu'on appelle la JTT, il y a, je dirais, sa technique qui est voisine, qui est la technique PITT, où dans ce cas, eh bien, on a un contrôle du potentiel et on va suivre directement le courant. Et là, on va avoir diverses situations. Et cette technique, je dirais, elle est plus rapide, voire plus précise que la JTT, puisqu'on peut avoir plus de précision pour les potentiels thermodynamiques, notamment parce qu'on va toujours regarder à des grains qui vont être relativement homogènes dû au faible courant qu'on va utiliser. D'où, on va avoir différents systèmes. Si on prend des cas des systèmes d'intercalation qui sont des systèmes, je dirais, homogènes ou solutions solides, comme par exemple lithium dans lithium TiS2, eh bien, dans ce cas, on va avoir, je dirais, ces comportements où, comme vous pouvez le voir ici, le courant va tout simplement diminuer de façon monotone et continue et va suivre une loi de type Cotterell dont la variation est indiquée ici. Et bien, à partir de cela, on va pouvoir déterminer le coefficient de diffusion du lithium dans ce matériau. Bien sûr, connaissant ce paramètre A, et je dirais c'est ce paramètre A qui est sujet à beaucoup de débats, quelle est la taille, la surface des particules qu'on va considérer. Et c'est pour ça que, souvent, il y a une comparaison des mesures de conductivité ionique avec celles qu'on peut déduire de RMN, et peut-être l'orateur suivant en parlera. Ensuite, on a le cas des systèmes biphasés, systèmes de type lithium FPO4 et beaucoup d'autres, où là, on va avoir deux situations. La première, c'est tout simplement le cas où, bien, dans ce cas, on va être limité par la mobilité de charge dans chacune des deux phases alpha et bêta. Et bien, dans ce cas, on aura la chute en courant, comme indiqué ici, qui va décroître et se stabiliser à un potentiel, ou à une valeur, pardon, qui va être proportionnelle à la surtension. Et maintenant, à partir d'une extrapolation de ces différentes à zéro courant, on peut en déduire le potentiel thermodynamique de la réaction qu'on a. Nous voilà un cas. Et le deuxième cas est un cas d'un système biphasé où maintenant on va avoir une nucléation de phase, c'est-à-dire une croissance d'une phase bêta sur une phase alpha. Et bien dans ce cas, on va avoir des chronoampéromes, comme indiqué ici, où on va avoir des variations de courant qui vont être en forme d'une cloche, comme indiqué ici. Et dans ce cas, ce courant est donné par le potentiel chimique, et S va être tout simplement la surface de l'interface. Okay. Donc voilà, si vous voulez, décrit les différents systèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous allez regarder des matériaux d'électrode pour les technologies à ion lithium ou lithium métal. Alors, quelques exemples concrets de la littérature où maintenant, eh bien, on regarde tout simplement des systèmes. Vous avez ici un système d'insertion basé sur des composés lamellaires. Et si vous faites, dans ce cas, les mesures de PTT, vous voyez le comportement indiqué ici, le potentiel en fonction du temps. Et au début, dans ce domaine biphasé, puisque vous avez un plateau, vous avez dans ce cas une courbe en cloche qui est bien indiquée. Et pourquoi cette courbe en cloche? Je me répète un peu ici, c'est-à-dire que vous avez votre système avec une phase A, et lorsque vous allez directement maintenant électrochimiquement envoyer du courant à ce système, il va y avoir une transformation, et vous allez nucléer la phase B sur la phase A. Vous voyez? Et au fur et à mesure, eh bien, vous allez augmenter la phase B, et vous voyez que le maximum de la cloche correspond au point où vous avez 50% de phase A et 50% de phase B, c'est-à-dire où vous allez être directement au maximum de surface de contact ou d'interface entre, je dirais, ces deux phases, et ensuite il y a la progression et une décroissance. Donc voilà, si vous voulez, un système classique. Des systèmes moins classiques, mais qui montrent également des phénomènes identiques, sont ces fameuses réactions de conversion qu'on avait introduites il y a plus de 20 ans de ça, où dans ce cas, eh bien, lors de la réduction électrochimique, on a un système qui n'est même pas biphasé, il est triphasé, puisqu'il va y avoir l'oxyde de cobalt, Li2O et cobalt. Et vous voyez qu'en ce cas, on a trouvé un exemple d'une courbe en cloche parfaite, où vous voyez directement la nucléation de ces phases à partir de CO. D'où c'est pour vous dire que ces mesures électrochimiques ont une certaine puissance, puisqu'elles peuvent aller également dans les mécanismes de croissance lors, je dirais, d'une transformation ou d'une conversion d'une phase A à une phase B. Donc voilà, si vous voulez, pour les points de base. Ensuite, je voudrais enclencher sur les façons dont on va caractériser maintenant nos électrolytes et quelles vont être les meilleures performances et quelles sont toutes les métriques qu'on va utiliser. Alors la première, que vous utilisez tous, mais là aussi il y a des astuces, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va directement faire une batterie et cycler et voir tout simplement la variation de la capacité en fonction du cyclage. Et là, si vous voulez réellement voir si un système d'électrolyte ou une compatibilité électrolyte-électrode est souhaitable, eh bien, il va y avoir des conditions. Si je prends, dans ce cas, des systèmes lamellaires, comme ce sera le cas, je dirais, tout le long de cet exposé, eh bien, vous voyez tout d'abord que si je travaille à 4,1 volts ou 4,3 volts, j'ai des différences. Pourquoi? Parce qu'à 4,3 volts, je suis beaucoup plus oxydant et automatiquement, mes réactions parasites vont augmenter. Ensuite, eh bien, si je regarde cela, je peux voir que maintenant, si on va beaucoup plus rapidement, eh bien, je vais avoir des chutes plus importantes, comme indiqué ici. Et ensuite, eh bien, il va y avoir le problème d'enrobage. Et c'est là où on montre clairement les aspects bénéfiques de l'enrobage. Vous voyez que le cas d'une particule qui est entourée ici par cet enrobage en vert, eh bien, a une chute en capacité beaucoup moindre qu'une particule qui est nue, pour la bonne et simple raison, c'est que l'électrolyte, eh bien, n'a pas accès à la surface du matériau si on met cet enrobage, et c'est la raison pour laquelle la plupart des fabricants de matériaux préparent des matériaux enrobés. D'où le message de ce transparent, c'est que si vous voulez réellement détecter si un additif est bon ou pas bon, ou les comparer, travaillez à haut potentiel, à haut régime, et dans ce cas, vous allez accélérer les détections des défaillances et savoir ce qui se passe. Donc voilà, si vous voulez, la première métrique qui est cette fameuse capacité. La deuxième, que je vais introduire, qui est relié, c'est tout simplement, lorsque vous faites ces mesures de capacité, eh bien, dans ce cas, on va également regarder le fameux delta V. Ce fameux delta V, c'est la polarisation entre charge et décharge ou l'hystérésis, et comment celle-ci va changer en fonction du cyclage. Et vous voyez ici, c'est les mêmes types de matériaux avec les systèmes enrobés et non enrobés. Et vous voyez que dans ce cas, le delta V, eh bien, une fois de plus, vous donne le même message que la capacité, c'est-à-dire que finalement, des systèmes enrobés sont beaucoup plus performants que des systèmes non enrobés. D'où, quelle est la conclusion de tout cela ? Eh bien, c'est finalement que ces deux paramètres, la capacité et delta V, peuvent vous renseigner sur, je dirais, les qualités d'un système de matériaux et d'électrolytes. Et la question qui se pose, tout cela c'est bien beau, mais si on est obligé de faire 1000 ou 1500 cycles, ça prend 4 ou 5 mois. D'où par conséquent la question, c'est comment on peut accélérer ces méthodes. Alors pour accélérer ces méthodes, bien, il va y avoir des protocoles de test qui sont, je dirais, relativement intéressants. Et un, comme vous voyez ici, consiste tout simplement à faire un cycle, ensuite le cycle suivant, vous allez directement en potentiel élevé et vous allez, dans ce cas, maintenir ce potentiel pour 24 ou 48 heures. Et ensuite, vous allez directement redescendre. Et vous savez qu'en ce cas, vous êtes à l'état oxydant, d'où vous allez favoriser les dégradations et vous allez voir les différences de performance. Et en effet, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on voit très rapidement, on n'a plus besoin maintenant que de 40 ou 50 cycles pour voir quelle est la différence entre les performances d'un matériau enrobé ou pas enrobé, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut déduire que finalement, c'est le matériau à 4,4 volts, lorsqu'on y met ces différents additifs, eh bien, on voit qu'il a une meilleure performance que l'autre matériau avec, je dirais, des optiques différents. D'où, message ici, c'est que si vous voulez directement avoir des résultats rapidement, ce qu'on veut en général, eh bien, c'est tout simplement de faire des tests accélérés en allant à haut potentiel et en laissant les cellules à haut potentiel pendant un grand nombre d'heures. Donc ça, c'est un aspect qui est à considérer. Ensuite, un autre aspect avec lequel on peut jouer, lorsqu'on veut accélérer ou comprendre plus rapidement les défaillances, c'est sur l'électrolyte. En effet, sur les électrolytes, vous avez entendu parler qu'il y avait des électrolytes super concentrés, qui sont des électrolytes dans lesquels, dans ce cas, eh bien, la quantité de soluté est plus importante que celle du solvant en poids et en volume. Eh bien, ces électrolytes, dus à des complexes de solvation qui sont totalement différents que dans les électrolytes classiques, eh bien, ils ont des performances électrochimiques, notamment des résistances à l'oxydation relativement élevées. Donc, par conséquent, ayant ces superconcentrés, on peut se demander que se passe-t-il si on a des électrolytes sous-concentrés. Et effectivement, si on a des électrolytes sous-concentrés, vous voyez maintenant que je vais passer d'électrolytes de 1,2M à 0,4M et à 0,2M, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, vous avez, je dirais, des chutes de capacité très rapides, comme vous voyez pour 0,2M. Donc, par conséquent, dans ce cas, eh bien, si vous mettez des additifs qui soient de très bons additifs, eh bien, vous allez voir l'effet rapidement sur ces électrolytes à basse concentration et avec le nombre de cycles relativement, je dirais, faible. D'où là aussi, en termes d'accélération, eh bien, que pouvons-nous faire pour avoir des résultats plus rapides? Eh bien, changer nos concentrations d'électrolytes et voir ce qui se passe dans le cas des bases d'électrolytes. D'où voilà les différentes astuces pour ces différents problèmes de cyclage. Ensuite, un autre point que je voudrais mener est tout simplement ces fameuses courbes potentiel-capacité. Et je voudrais définir deux autres métriques que je vais appeler directement SV, ça va être un shift ou un dépassement du potentiel, et RV, ça va être également une variation du potentiel associée à la résistance. Donc ce que vous voyez ici, ce n'est rien d'autre directement que la cellule ou la courbe électrochimique d'une cellule complète, la charge en noir, et en bleu et en rouge, vous avez tout simplement les demi-cellules. Et beaucoup d'entre vous, eh bien, observe, quand vous faites du cyclage, ces courbes eh bien, qui vont shifter à droite, à gauche. C'est-à-dire qu'en ce cas, vous allez cycler entre des potentiels identiques, mais les capacités en fin de cyclage vont être différentes. Et la question, c'est finalement de savoir que se passe-t-il dans ces genres de cyclages et quelle est la signification d'un déplacement vers la droite, d'un déplacement vers la gauche, et ainsi de suite. D'où ce qu'on va voir maintenant, c'est, et finalement, qu'est-ce qui arrive lorsque, dans ce cas, vous avez un déplacement de votre électrode négative vers la droite. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, vous allez avoir tout simplement une perte de lithium, parce que ce qu'il faut que vous gardez en mémoire, c'est que dans cette technologie lithium-ion, mon stock de lithium, mon réservoir de lithium, est bien déterminé. C'est-à-dire que toute réaction parasite qui va consommer du lithium va être néfaste au cyclage. D'où, par conséquent, vous avez ces difficultés de savoir ce qui se passe au niveau du potentiel lorsque vous allez directement perdre du lithium, et également, que se passe-t-il au niveau du potentiel lorsque, par des réactions parasites, vous allez, dans ce cas, augmenter l'impédance, et ainsi de suite. D'où ça, je vais tout simplement essayer de vous l'indiquer, ou de vous l'expliquer de façon claire et de façon schématique. Tout d'abord, on va s'intéresser au problème d'impédance. Si je regarde le problème d'impédance, eh bien tout d'abord, je vais regarder le potentiel moyen. Ce potentiel moyen, il est donné par la formule indiquée ici, qui est pondéré par la capacité Q. Okay ? Et sur ce schéma, il est relativement simple. Vous voyez que je prends directement la capacité Q, qui est 8, je compte le nombre de carreaux, voilà ma capacité, et je vais directement, dans ce cas, envoyer un courant, et je vais avoir une polarisation IR. Et je peux en déduire, comme vous pouvez voir ici, le potentiel moyen en charge, je peux faire le potentiel moyen en décharge. Okay ? Et maintenant, venons sur cette courbe et regardons ce qui se passe. Si je suis maintenant dans le cas d'une faible impédance, qui est la courbe en noir, eh bien je vais avoir une capacité, je dirais, maximale. Et au fur et à mesure que je vais augmenter l'impédance, vous voyez que les courbes en bleu, en vert, eh bien, dans ce cas, elles vont cycler toujours entre les mêmes potentiels, mais la capacité de leur début aux fins de charge sera différente. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement perdre de la capacité va décroître, et le potentiel moyen va tout simplement s'abaisser. Et ça, c'est dû, une fois de plus, à des réactions parasites qui vont se développer. D'où ce terme va être important, vous allez le voir par la suite. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'on va perdre du lithium. Ici, pareil, une représentation schématique où je vous présente en haut eh bien, la capacité, toujours pareil avec les carreaux dont je mentionnais, et je vais considérer dans ce cas une cellule complète dans laquelle l'électrode bleue, qui est l'électrode positive, est limitée. Et si vous voyez que l'électrode est limitée, eh bien, dans ce cas, je peux en déduire ma surface et mon potentiel moyen qui est de 308. Maintenant, je vais tout simplement faire cycler mon accumulateur et je vais perdre, excusez-moi, du lithium ici, voyez, et je vais avoir maintenant les deux qui vont s'aligner. Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas, vous avez que la capacité demeure la même, mais c'est le potentiel qui décroît. Et ensuite, on peut continuer, au fur et à mesure qu'on va cycler, eh bien, cette courbe ou cette négative due à la SEI et autres eh bien, va encore perdre du lithium, et on peut voir, je dirais, les conséquences sur ce que j'appellerais la capacité et également sur le potentiel, eh bien, on voit directement qu'il y a une conséquence drastique sur la capacité et, dans ce cas, également, un potentiel moyen qui va augmenter, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, l'importance de ces deux termes que j'appellerais SV et RV lorsque vous allez faire cycler vos accumulateurs, et c'est souvent que vous voyez ces courbes qui shiftent vers la droite ou vers la gauche. Alors maintenant, pourquoi cela peut être utile ? Eh bien, je vous montre faire une petite démonstration sur un exemple, comme indiqué ici, dans lequel eh bien, j'ai défini le potentiel moyen en charge, comme ce fameux terme SEV plus RV, en décharge SEV moins RV, et finalement, vous voyez pouvoir ici, je peux tout simplement calculer ces deux termes. Et vous avez ici les résultats pour une cellule de nouveau classique NMC graphite, où vous avez, dans ce cas, le potentiel moyen en charge, le potentiel moyen en décharge. Et vous voyez qu'en ce cas, le potentiel moyen en charge varie plus rapidement eh bien, que celui en décharge. Je peux en déterminer, dans ce cas, le terme SV, qui suit la courbe en bleu. Et vous voyez qu'en ce cas, on dévie fortement des valeurs idéales de delta V. On peut avoir RV ici. Et maintenant, si on compare ce graphe avec ce qu'on peut avoir au niveau de la quantité, au niveau du delta V en fonction du cyclage, ce qu'on a vu auparavant, vous voyez que dans ce cas, effectivement, lorsqu'on a, je dirais, un changement de courbature dans la courbe SEV, eh bien, ça correspond tout simplement à le changement de courbature également dans la capacité. D'où la question que vous pouvez demander, à quoi sert réellement ces termes SV et RV ? Vous allez voir que dans ce cas, un exemple beaucoup plus concret va maintenant être présenté où on va pouvoir finalement analyser, comprendre le phénomène qu'on appelle le phénomène de rollover dans le cas des batteries à lithium-ion, c'est-à-dire c'est des systèmes dans lesquels vous avez une capacité qui reste, je dirais, relativement constante et soudainement, elle va tomber fortement. Et c'est ce que je vous présente ici. Ce qu'on voit ici, c'est directement quatre cellules dans lesquelles vous avez les conditions de cyclage où je montre la capacité, la perte de capacité. Et voilà le terme SVC, dont j'ai mentionné, et le terme RVC. Et vous voyez que dans ce cas, regardez, après 900 cycles, regardez la chute rapide de la capacité. Et dans ce cas, eh bien, mon terme SVC montre radicalement. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, j'ai directement un manque de lithium quelque part. Ça veut dire que j'ai un dépôt de lithium. Et effectivement, tout cela peut être confirmé. Il suffit de faire de la microscopie pour s'apercevoir que si je prends mon électrode négative indiquée ici, et vous voyez aucune anomalie. Dès que je passe dans la courbe rouge, eh bien, j'aperçois directement que j'ai un dépôt de lithium à mon électrode négatif. D'où, si vous voulez, cela est fort utile pour savoir, pour prédire, quand est-ce qu'on va avoir un dépôt de lithium dans ces systèmes. Et d'ailleurs, on peut voir ces différents systèmes, où dans ce cas, eh bien, on peut voir, voyez, qu'à partir d'un centique, vous avez la courbe qui va directement changer de pente. Ça veut dire qu'en ce cas, attention, on va avoir un dépôt de lithium et une défaillance à la batterie sous peu. Donc, par conséquent, vous voyez que ce terme SVC, eh bien, c'est définitivement une métrique qui est très importante pour savoir quand est-ce qu'on va avoir du dépôt de lithium dans les systèmes. Et bien sûr, c'est des choses qu'on peut appliquer lorsqu'on fait des charges rapides, où là, on est sûr, on est dans des conditions pour avoir ce dépôt de lithium. De là aussi, vous voyez, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne fait rien d'autre que d'exploiter les courbes électrochimiques que l'on peut directement obtenir dans des mesures classiques de laboratoire. D'où, pour le moment, j'ai parlé de ces différents termes, capacité, V, delta V, SV, RV, ainsi de suite. Et maintenant, je voudrais introduire une autre métrique qui est certainement la plus importante et que beaucoup d'entre vous vont utiliser. Cette métrique, je dirais, c'est cette fameuse dV sur dQ, qui, je dirais, l'empreinte électrochimique. Et cette empreinte électrochimique, eh bien, elle va nous permettre de savoir ce qui se passe réellement dans les systèmes. Ici, toujours pareil, vous reconnaîtrez que je suis en train de regarder une cellule complète avec en bleu et en rouge les électrodes, ou les demi-électrodes, positives en bleu, négatives rouge, et en noir la cellule. Et maintenant, eh bien, je vais tracer les dérivés de ces différentes courbes. Je vais tracer les dérivés d'abord des électrodes positives bleues et des électrodes négatives rouges. Et ensuite, eh bien, je vais faire directement la dérivée de la cellule complète, qui est en noir. Eh bien, maintenant, si vous voulez, on va exploiter ces courbes. C'est-à-dire que ces courbes, je vous ai montré que finalement, lorsque vous cyclez, eh bien, on ne va jamais revenir, les capacités des points terminaux vont changer. Il va en être de même de ces différentes courbes. Et par conséquent, on va tout simplement faire des cyclages et ensuite on va essayer tout simplement de recaler ces courbes pour trouver finalement quels sont les problèmes que l'on a. C'est d'ailleurs qu'on va regarder quel va être le shift en masse, le shift directement en potentiel et ainsi de suite. Et voyez ici, lorsque je regarde cette expression, dV sur dQ, je peux l'écrire directement avec la masse de la positive, masse de la négative, et voyez, potentiel à la positive et potentiel à la négative. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce que j'appellerais des changements au niveau de masse, de la positive et de la négative, ainsi que des changements au niveau des potentiels de la positive et de la négative. D'où ces courbes, eh bien, pas mal de chercheurs ont essayé de les exploiter, et notamment Jeff Dahn, qui a proposé tout un algorithme, si je peux dire, ou un modèle pour directement fitter ces courbes. Alors ce que vous regardez ici, eh bien, c'est finalement une série de séquences qui est utilisée pour obtenir directement le meilleur fit de l'expérience et du calculé. Alors, on commence tout d'abord sur la mesure expérimentale, en noir, et en vert, vous avez, je dirais, un calcul qui simplement consiste à faire une addition bête et méchante des positives et négatives, ainsi de suite. Et ensuite, vous allez tout simplement essayer de jouer avec les paramètres. Alors, vous voyez qu'ici, au départ, eh bien, on va jouer directement avec le changement de potentiel ou le déplacement du potentiel en négatif, en rouge, et je vais directement me caler sur déjà le point de départ. Ensuite, je vais directement jouer sur, dans ce cas, le changement de potentiel de la positive pour ajuster ces pics. Ensuite, je vais jouer sur les masses, et ainsi de suite. Et finalement, eh bien, on arrive à ce fit qu'on a ici. C'est-à-dire que dans ce cas, on arrive à savoir comment les électrodes évoluent en fonction du cyclage. Est-ce que la négative va à droite, la positive va à gauche, avec bien sûr plus et moins qui vont directement vous indiquer là-dessus. Alors cela, eh bien, on va le voir sur un exemple. Je vais prendre un exemple. Et là aussi, vous voyez une batterie classique, lithium CO2, graphite du 250. Vous voyez ici, en noir, je dirais, c'est la courbe mesurée, n égale 3. Et ensuite, avec n égale 256, vous avez la courbe noire et verte pareil. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement faire le fit et ajuster tous ces paramètres. Et voilà finalement ce que va me donner le fit dans lequel je vais presque superimposer ces courbes au troisième cycle et au 250e cycle. Ayant cela, j'ai les nombres, j'ai les paramètres, et je peux maintenant essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous voyez que, je ne vais pas aller dans tous les détails ici, mais vous voyez qu'à partir de ces paramètres, eh bien, on peut comprendre pourquoi finalement, dans certains cas, vous avez une courbe qui va directement se déplacer vers la gauche, et ensuite qui va repasser vers la droite lorsque vous avez un changement directement de masse, et ainsi de suite. Et la même chose pour l'électrode négatif. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire lorsque les systèmes sont relativement compliqués, c'est-à-dire que lorsque les dérivés sont complexes. Alors maintenant, eh bien, si on n'aime pas tellement la modélisation, il y a pas mal d'astuces sur lesquelles on peut utiliser, je dirais, cette même philosophie et avoir des résultats, je dirais, intéressants et exploitables et comprendre ce qui se passe. Et là, je vais vous donner finalement deux ou trois exemples. Le premier exemple est un exemple, toujours pareil, tiré de la littérature, dans lequel maintenant, eh bien, je suis toujours pareil sur ces cellules lithium CO2 graphite, mais là, je ne veux pas faire la modélisation, je vais directement regarder mes dérivés. Et ce que je fais ici, je suis en train de regarder des cellules avec un cycle en noir et 50 cycles en rouge. Je trace les dérivés, et là, je vais tout simplement essayer de caler mes dérivés, tout d'abord, en fin de décharge. Je cale mes dérivés en fin de décharge, et vous apercevez que les pics en noir, rappelez-vous, c'est les dérivés que je vous ai montrés auparavant, qui sont associés au carbone, eh bien, dans ce cas, vont, je dirais, changer et shifter. Mais vous voyez qu'ici, regardez, eh bien, il y a un shift énorme de cet électrode de carbone. Okay ? Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans ce cas, lorsque je vais cycler mon accumulateur sur 4,2 volts, ma positive, elle est correcte, mais c'est ma négative qui a une difficulté. Et ça, on peut le comprendre simplement en allant sur les courbes. Et voilà tout simplement les courbes de lithium CO2, graphite. Et vous voyez qu'au départ, eh bien, j'ai ces valeurs de X et ces valeurs de Z. X, tout simplement, c'est la quantité de lithium pour aller de lithium C12 à mon matériau totalement chargé, lithium 0, ou alors Z, qui est de lithium C12 à lithium C6. Et vous voyez que ce qui se passe ici, eh bien, c'est que maintenant, lorsque je vais à 4,2, regardez Z', eh bien, a tout simplement raccourci. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, mon stock de lithium n'est plus le même qu'au départ. Si le lithium est resté dans mon électrode négative, et là aussi, c'est la croissance de la SEI qui va consommer de ce fameux lithium que je n'ai plus pour mes réactions d'intercalation. Okay ? D'où ça, je dirais, c'est classique. Maintenant, je vous ai mentionné plus tard, ou tout à l'heure, excusez-moi, que si j'allais à plus haut potentiel, eh bien, en ce cas, j'allais accélérer les décompositions. Eh bien, on va faire les mêmes expériences. Vous avez ici à 4,35, et on va pouvoir aller maintenant plus haut, et je vais aller à 4,4 volts. Okay ? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement arrêter ma cellule après le premier cycle et le 50e cycle, et je vais tout simplement maintenant les caler en décharge. Et je les cale en charge, et vous voyez ce qui se passe ici. Dans ce cas, regardez, je ne peux plus voir, après 50 cycles, mes pics associés au carbone. Que se passe-t-il ? Eh bien, je reviens tout simplement sur mon schéma. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, tout simplement maintenant, je suis limité par mon électrode positive. Donc ça veut dire qu'à haut potentiel, eh bien, c'est l'électrode positive de lithium CO2 qui devient, je dirais, limitante par rapport à celle de carbone. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut, dans ces systèmes relativement complexes, parce que vous voyez ici, c'est vraiment les pics qui sont principalement reliées à l'électrode de carbone, on peut arriver à voir quelles sont les sources de défaillance si vous allez à 4,2, à 4,4, et ainsi de suite. Et ensuite, je voudrais encore vous simplifier la tâche et vous montrer comment, dans certains systèmes, eh bien, une extrapolation, je dirais, de cette philosophie peut vous permettre très rapidement de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un système qui a été développé au laboratoire il y a de cela 2 ou 3 ans par Romain et Gouchon sur le système NVPF. Alors ce système NVPF, vous allez voir, c'est tout simplement un composé d'électrodes sodium 3, V2, PO4, 2 fois F3 qu'on utilise pour les batteries à ion sodium. Et je vous représente ici, une fois de plus, une cellule 3 électrodes avec en haut l'électrode positive, ici au milieu la cellule complète et en bas l'électrode négative. Et vous pouvez voir que d'après ce schéma, eh bien, que les courbes se superimposent ou que la capacité irréversible de ma cellule n'est rien d'autre que la capacité irréversible de mon électrode négative. Donc ça veut dire que là, j'ai également une information sur quel est finalement le troublemaker dans ce système. Si maintenant, je regarde la dérivée, eh bien, regardez ce qui se passe. Je regarde la dérivée de ma cathode et la dérivée de ma cellule complète. C'est simplement la dérivée. Ces dérivées sont identiques. Elles se superimposent. Et les points finaux sont également se superimposent. Cela veut dire tout simplement que, dans ce cas, je n'ai plus besoin de faire des manips 3 électrodes. Il suffit tout simplement que je trace la dérivée de ma cellule complète pour, en 3 secondes, savoir quelle électrode va être limitante, la positive ou la négative. OK ? Vous avez bien compris ça ? Et ce pic qui est associé à la transition de phase, eh bien, va être notre empreinte DVDQ qui va nous permettre d'expliquer clairement les comportements de ce système. Et je vais vous donner 2 exemples là-dessus. Les exemples, d'ailleurs, c'est des courbes qui ont été préparées par Parch, dans lesquelles on regarde le système NVPF. Et dans ce cas, eh bien, on va comparer en fonction du nombre de cycles. Vous avez une cellule complète, vous voyez ici directement la décharge, et là, vous avez la dérivée avec, vous voyez, la feature du l'aspect ou l'anomalie, je peux dire, du NVPF, et ensuite, vous avez tout simplement le carbone. Et regardez maintenant ce qui se passe. Je vais cycler. Regardez la dérivée. Je cycle. Et je cycle. Ça veut dire qu'en ce cas, qu'est-ce que vous voyez ? C'est que le pic de NVPF ne bouge pas du tout. Par contre, regardez, le mur correspondant au hard carbone bouge. Ce qui veut dire qu'en ce cas, eh bien lorsque je suis à 25 degrés, et lorsque je fais des cyclages longs, 200 cycles, eh bien dans ce cas, la perte du sodium, c'est-à-dire mon manque de stock en sodium, provient de mon électrode négatif. Alors bien sûr, si maintenant je veux accélérer ça, eh bien je peux m'amuser à rester à haut potentiel, comme je vous mentionnais, mais je peux également aller en température. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va aller en température et on va refaire la même manip. Et lorsque je vais en température, eh bien, comme on peut voir ici, qu'est-ce qui se passe ? Première décharge, 100 cycles, 200 cycles, 300 cycles. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, maintenant, j'ai une forte contribution de ma négative, mais maintenant, vous voyez, même l'électrode NVPF, eh bien, là aussi, elle est moins performante qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dégradation, une CEI qui va se former à votre électrode positive. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut étudier, je dirais, ces différents systèmes en jouant sur ces fameuses dérivées. Et comme vous pouvez le voir, c'est très utile dans beaucoup de systèmes électrochimiques. Donc ça, si vous voulez, c'était, je dirais, le point le plus important et qu'on devrait utiliser beaucoup plus que l'on fait aujourd'hui dans ces études. Enfin, le dernier, puisqu'on parle finalement de dépôt et ainsi de suite, c'est de regarder ce qui peut se faire, je dirais, au niveau de l'impédance. Alors là aussi, je vais rester relativement limité au niveau de l'impédance. C'est plutôt tout simplement donner un simple message de comment conduire ces mesures d'impédance, mais pas rentrer finalement dans tout le fondamental de cette technique. Alors pour regarder ces systèmes d'impédance, eh bien on va revenir à l'élément qui est la cellule. Et si on regarde cet élément qui est la cellule, eh bien il est constitué principalement d'un électrolyte, d'une interface électrode-électrolyte et d'une interface métal courant collecteur électrode. Et ça, on va pouvoir directement le représenter par des circuits. On peut représenter l'électrolyte bien par une résistance. On peut représenter l'interface ou le transfert de charge à cette interface par un circuit RC, et on peut en faire de même avec tout simplement la résistance au contact. D'où on peut intégrer tout ça dans un circuit pour avoir tout simplement un diagramme de Bode ou un Nyquist, et dans ce cas, on obtient, si je peux dire, avec la partie imaginaire, la partie réelle, c'est, je dirais, demi-cercle, ainsi de suite. Alors maintenant, eh bien, on va regarder quelle est la correspondance. Automatiquement, l'impédance d'une résistance n'est pas fonction de la fréquence, d'où automatiquement, eh bien, elle va se traduire par un point, comme vous pouvez voir ici, sur l'axe réel. Ensuite, on va avoir le circuit RC, la résistance de contact par ce demi-cercle, et ensuite la résistance de transfert de charge. Donc voilà, si vous voulez, les schémas relativement simples d'une batterie 3 électrodes ou une batterie normale, comme indiqué ici. D'où la question, c'est finalement comment sonder rapidement cette interface électrode-électro-solide pour mieux la cerner et mieux comprendre ce qui se passe. Et bien, pour ce faire, on va faire certains types de mesures, notant le fait, tout simplement, concernant quelle est l'origine de ces différents termes. Alors, si je regarde, finalement, ce transfert de charge à l'interface, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une SEI, ce n'est rien d'autre qu'un conducteur ionique, dans lequel il y a des quantités d'inhomogénéité, de lacunes, de défauts, voire de composition. Mais peu importe, on peut directement décrire tous ces phénomènes d'activation par une loi de distribution de Boltzmann ou encore un plot d'Arrhenius, comme indiqué ici. Maintenant, en connaissant que dans ce cas, la conductivité est inversement proportionnelle à la résistivité et que la résistivité est proportionnelle à la résistance, on peut tout simplement en déduire que le transfert de charge est fonction de la température. D'où par conséquent, si les fonctions de température, et si je veux l'exacerber, eh bien je vais devoir faire des mesures à basse température. Et là, je dirais, c'est un peu l'astuce pour faire ou à mieux cerner ce qui se passe à cette interface. Et en effet, regardez tout simplement ces résultats, où dans ce cas, on va tout simplement passer de moins 10 degrés à 40 degrés C. Et regardez le transfert de charge à moins 10 degrés, il est vraiment prominent dans cette courbe, alors que maintenant, si je vais en température, eh bien, on a du mal à le voir. Par contre, si maintenant je regarde le contact électrode courant collecteur, eh bien, je vois cette résistance au contact, comme vous pouvez voir ici, elle varie très peu avec la température. D'où par conséquent, cela est très important pour connaître ce qui se passe. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que maintenant, lorsque vous avez une batterie à ion lithium, vous avez deux interfaces, l'électrode positive et l'électrode négative, et la question est de savoir comment maintenant je vais pouvoir aller, finalement, comme je vous ai mentionné aux mesures de trois électrodes, trouver ce qui se passe à l'électrode positive et à l'électrode négative. D'où par conséquent, on va regarder ce point. Alors, ce qu'on peut faire, eh bien, il y a différentes mesures que l'on peut faire, c'est-à-dire dans le cas des cellules Paschcell, ça c'est des manips qui ont été faites il y a déjà plus de 15 ans, où dans ce cas, eh bien, on mettait une électrode de référence et on allait tout simplement dans ce cas eh bien, mesurer l'impédance de chacune des électrodes et comparer avec l'impédance d'une cellule directement deux électrodes. Et vous voyez ici, voilà directement l'impédance électrode positive, l'impédance électrode négative. Et si je mesure une cellule complète, deux électrodes, c'est-à-dire je prends le spectre d'impédance en noir, eh bien effectivement, je peux, par une simple sommation, rendre compte de l'impédance de ma cellule. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire pour comprendre ces systèmes trois électrodes et connaître les impédances qui ont lieu dans ces différents types d'accumulateurs. Alors, une autre façon de faire cela, eh bien, c'est une façon dans laquelle, je dirais, qui a été développée par Jeff Dunn, qui va consister, dans ce cas, à utiliser, comme vous montrez ici, des cellules symétriques. Alors, ces cellules symétriques, eh bien, on va faire maintenant la négative, on va faire la positive, et bien sûr, la cellule complète. Et vous allez obtenir tous ces diagrammes Nyquist, comme indiqué ici, en fonction de la température. Okay. Et vous voyez aussi, on voit simplement que là où, à basse température, eh bien, le transfert de charge, je dirais, est vraiment ce qui ressort le plus. Et dans ce cas, vous avez deux courbes dans lesquelles il va étudier tout simplement des différents conducteurs de courant, collecteurs de courant, que sont dans ce cas l'aluminium et l'acier. Et au fur et à mesure que vous montez, je dirais, en température, vous voyez que même le transfert de charge, on a du mal à le voir, et c'est les résultats, les résistances au contact qui vont devenir, je dirais, les plus importantes. Enfin, quand je dis les plus importantes, j'exagère, parce que regardez ici, on est obligé, dans ce cas, de les agrandir pour voir réellement ce qui se passe localement et au niveau de ces contacts de ça. Donc là aussi, si vous voulez, un message qui peut sortir de tout ça, c'est lorsqu'on regarde des cellules lithium ou tout solide, ainsi de suite, je pense que favoriser des mesures à basse température, 10 degrés ou moins, est certainement très avantageux. Et ça, c'est un message à retenir. Enfin, j'ai parlé pas mal de tout ce qui est finalement les cellules complètes. Et un autre point que je voulais aborder maintenant, c'est lorsqu'on a des cellules qui, après 50, 100 cycles ou 1000 cycles, vont commencer à perdre en capacité, eh bien, que se passe-t-il au niveau de l'électrolyte et quelles sont les réactions qui ont lieu. D'où maintenant, on va voir ce qu'il y en est aux techniques de diagnostic des électrolytes. Alors, ces techniques de diagnostic des électrolytes, eh bien, elles ont été fortement utilisées. D'ailleurs, dans ce cas, on peut utiliser tout simplement la GC-MS, c'est-à-dire gaz chromatographie et masse spectroscopie, dans le cas des liquides, mais dans ce cas, on a du mal tout simplement à connaître les ions puisqu'on ne peut pas les mesurer par ces techniques. On peut faire du XPS, mais dans ce cas, on va tout simplement s'intéresser à la SEI. On peut faire tout simplement des mesures de spectroscopie d'émission optique à plasma, coupage inductif, qui est l'ICP-OS. Mais dans ce cas, bien sûr, il faut récupérer les liquides et on ne fait pas de l'in-situ. Et enfin, on peut utiliser la RMN. Et ça, peut-être qu'on va le voir par la suite, pour déterminer les espèces dans le solvant, ainsi que les quantités de sel. Mais tout ça, c'est intéressant, mais la difficulté, c'est qu'il faut, dans la plupart des cas, eh bien, ouvrir la cellule. Ouvrir la cellule, il faut, dans ce cas, eh bien, percer un trou dans la cellule pour récupérer l'électrolyte. Ensuite, il faut certainement les immerser dans des solutions de CH2-Cl2 pour injecter ou éjecter tout cet électrolyte, et ainsi de suite. Donc cela, si vous voulez, présente des difficultés et prend pas mal de temps. Donc la question, c'est finalement, quelles sont les techniques alternatives et qui puissent être développées. Mais la solution, peut-être, c'est tout simplement de considérer que ces électrolytes, eh bien, ils ont un point de fusion, ils vont pouvoir geler, et ainsi de suite. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser finalement ces points de fusion pour avoir des informations sur les quantités de solvants et sur les quantités de sel. C'est-à-dire qu'on va revenir dans des mesures classiques d'analyse thermique et de voir ce qui se passe à ce niveau. Bien, en effet, les électrolytes, lorsque vous mélangez EC et DMC ou EC ou MC, eh bien, vous allez avoir un diagramme binaire avec des statistiques, des parties solides et ainsi de suite. Et en effet, je vais prendre directement le cas le plus simple, vous le connaissez tous, spécialement par ces temps-ci, c'est que dans ce cas, eh bien, si vous voulez tout simplement abaisser le point de fusion, vous allez rajouter du sel. La raison pour laquelle on sale les routes. Tout simplement pour changer les points de fusion. Eh bien, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que lorsque j'ai ajouté du lithium PF6 dans mes électrolytes, eh bien, je vais tout simplement changer les températures, je dirais, de fusion de ces différentes phases, et ainsi de suite. Et en effet, si vous regardez dans le cas des électrolytes, vous avez ici un diagramme dans lequel vous avez DMC et lithium PF6, eh bien, vous avez dans ce cas le solidus, le liquidus, et on va pouvoir directement voir ce qui se passe ici. D'où par conséquent, si je veux connaître davantage sur ce qui se passe dans mon système, si je perds du solvant, eh bien, je vais changer tout simplement ces différents points de fusion. Si je perds du solide ou du sel, je vais directement également changer ces points de fusion, changer les delta H, d'où automatiquement, les mesures que l'on peut faire ici sont des mesures d'analyse thermique, comme indiqué ici, sur lequel on va regarder ces points de fusion des électrolytes. Et là, eh bien, c'est des appareils qui ont été développés par l'équipe Jevdan, où il fait des mesures d'analyse thermique différentielle sur ces différentes batteries. Vous avez ici des pouch cells, vous avez ici la tête de mesure dans laquelle vous avez une référence, qui va être une cellule de référence qui va contenir de l'acétate de méthyle qui a l'avantage de ne pas se solidifier jusqu'à moins 100 degrés C, c'est-à-dire qu'en ce cas, il va pouvoir faire les mesures jusqu'à moins 100 degrés C, ce qui est largement suffisant pour les électrolytes qu'on utilise. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va tout simplement regarder ce diagramme de phase et on va tout simplement monter en température, comme indiqué ici. C'est-à-dire que je suis à une concentration bien particulière. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais directement passer mon solidus, je vais avoir un signal en thermique. Ça veut dire qu'en ce cas, je vais avoir un delta H associé à cette transformation. Et ensuite, directement, je vais passer la ligne du liquidus et je vais avoir un autre signal. D'où ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est comment des chercheurs ont utilisé cette technique pour suivre le vieillissement des batteries. Et on va regarder quelle est l'empreinte d'analyse thermique pour suivre la vie de la cellule. Alors pour cela, je vous ai remis, dans ce cas, le diagramme binaire du système lithium-PF6, EC, EMC et ECMC étant, je dirais, l'électrolyte commercial aujourd'hui dans les batteries lithium-ion, avec les différents additifs indiqués ici. Et comme vous pouvez voir ici, on va tout simplement se déplacer sur la ligne en bleu. Alors bien sûr, si je n'ai pas de sel, ça veut dire qu'en ce cas, je n'ai pas de sel, je vais augmenter mes points de fusion. Okay. D'où, si je regarde ce transparent, alors qu'est-ce que j'ai tracé ici? Il n'y a rien d'autre que le signal, la différence du signal dans l'analyse thermique. Et vous voyez que j'ai, dans ce cas, trois pics que je vais interpréter. Alors le premier pic, ici, est séparé en deux. Si je fais tout simplement la même analyse thermique sur des solvants sans sel, eh bien je n'ai qu'un pic. Ça veut dire que ce premier pic est identifié comme un complexe solvant sel de lithium qui va tout simplement fondre à cette température. Ensuite, j'ai mon pic qui va correspondre à EMC, et bien sûr, à plus haute température, donc vous connaissez tous, l'éthylène carbonate, qui, en tant que solvant par lui-même, eh bien, est solide à température ambiante. Vous y mettez un sel, il devient liquide. Et là, dans ce cas, vous avez directement une température, un liquidus, qui est aux alentours de moins 30, un truc comme ça. Vous voyez qu'en ce cas, on peut obtenir des informations intéressantes. Et ensuite, les informations, eh bien, il va y avoir la température de fusion, mais également l'air sous ces pics qui va être importante au niveau de détecter les quantités de solvants et autres. Et en effet, voilà un exemple dans lequel je prends une cellule et je vais augmenter ma quantité d'électrolyte. Vous voyez qu'en ce cas, je ne dépasse pas du tout les points, mais je vais directement augmenter l'air sous ces pics. Ça veut dire que je peux avoir une corrélation entre l'intégration du pic et la masse d'électrolyte. D'où, si lors du cyclage d'une batterie, eh bien, je perds du solvant, je perds de l'électrolyte, eh bien, je peux le détecter par ces mesures. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Alors maintenant, eh bien, on va prendre là aussi sur un cas réel qui a été étudié, qui a été publié, qui est celui-ci. Toujours pareil, des batteries, dans ce cas, du lithium, c'est quoi ce truc-là? C'est du 442, dans ce cas, on dirait, ouais. 442, ou dans ce cas, avec un M lithium PF6 et ECDMC. Vous voyez ici le premier cycle, en noir, et le 500e cycle, en bleu. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a un déplacement de ces différentes analyses thermiques, les courbes d'analyse thermique, ou traces. Eh bien, la raison, la question, c'est finalement, quelle est l'origine? Et pour connaître l'origine, vous allez voir, c'est relativement simple. Eh bien, je suis parti avec un électrolyte de 1M lithium PF6. Et maintenant, je vais prendre le même solvant et je vais changer ma quantité de sel. Et si je fais ça, eh bien, vous apercevez que le spectre bleu ici est équivalent du spectre indiqué ici, de 0,8M lithium PF6. Ça veut dire qu'en ce cas, après 500 cycles, eh bien, j'ai tout simplement perdu 0,2 mol de lithium PF6, c'est-à-dire que le lithium a été consommé dans les réactions parasites. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut avoir comme information. Donc là, j'ai regardé l'information au niveau de la perte, je dirais, de la quantité de sel, mais on peut regarder, bien sûr, des informations différentes et voir ce qui se passe au niveau du solvant, et ainsi de suite. Et au niveau du solvant, eh bien, une manip qui est, je dirais, différente est indiquée ici. Dans ce cas, eh bien, c'est toujours pareil des batteries lithium-NMC où, vous voyez ici, il y a des batteries qui ont été cyclées jusqu'à 10 000 cycles et, je dirais, les traces dans les thermiques sont indiquées ici. Et ce qu'on peut voir, regardez ici, après 10 000 cycles, il n'y a aucune différence. On aperçoit des différences ici au niveau, je dirais, l'intensité de ce pic au départ Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, ben, après, je dirais, 10 000 cycles, on a perdu des quantités, je dirais, infimes de solvants. Ça veut dire que, bon, ça montre que les systèmes lithium, NMC, 5-3-2 ou 4-2-2, je dirais, sont relativement fiables et peuvent cycler une grande nombre de fois, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur toutes les techniques électrochimiques, avec, dans ce cas, des analyses thermiques, pour comprendre davantage ces systèmes ou ces batteries avec lesquelles vous travaillez tous. Alors maintenant, je voudrais terminer ce cours par revenir, si je peux dire, sur ces problèmes de SEI, sur ces problèmes de croissance, et vous montrer là aussi qu'est-ce qu'on fait au niveau diagnostic. Et là, je reprends un problème qui est finalement inhérent à ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. C'est le cas du système lithium-ion, où vous avez des électrodes qui respirent lors du cyclage électrochimique. Mais elles respirent dans des directions opposées, ce qui est intéressant, quand on veut dire qu'en ce cas, le volume va se moyenniser, si je peux dire. Mais il va y avoir quand même des cas qui vont être différents. Et ces cas qui sont différents, vous avez le cas classique au départ, dans lequel vous avez lithium-CO2, graphite, où dans ce cas, le graphite va se contracter et s'étendre de 10%, alors que dans ce cas, lithium-CO2 ne va changer que de 4 à 5%. Ensuite, vous avez le cas problématique, qui est celui des électrodes de silicium, où là, eh bien, il va y avoir 300% d'expansion et de contraction lors du cyclage. Et enfin, le troisième cas, c'est le cas du lithium métal, où vous avez du dépôt de lithium métal à la surface. Donc voilà, si vous voulez, les problématiques qui se passent dans les accumulateurs. Alors là aussi, tous ces problèmes sont relativement relevants, si je peux dire, avec les technologies maintenant tout solide lithium, où les gens regardent fortement ce qui se passe sous l'effet de la pression et tout ça. Et là aussi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que tout ça, finalement, a été le souci des chercheurs il y a 30 ans de ça, où on voulait, lorsqu'on voulait développer la batterie lithium-métal. Et je vous souligner ici un papier, je dirais, spectaculaire, je dirais, honnêtement. C'est un papier qui a été réalisé dans Molinergy en 1991, où les chercheurs sont allés voir quelle va être l'influence de la pression lorsqu'on va cycler directement du lithium dans une technologie lithium-ion liquide. Vous avez une cellule électrochimique qui est intelligemment dessinée ici, avec une jauge de pression pour savoir la pression que vous allez mettre. Et là, eh bien, directement, vous allez avoir, je dirais, un piston qui va être amobile et qui va simplement modifier en fonction de l'épaisseur de la SEI. Grosso modo, un dilatomètre. Et on va tout simplement maintenant cycler ce lithium à différentes pressions. Et si on sait que ce lithium a différentes pressions, bien regardez ce qui se passe. Si je cycle à 16 psi, vous voyez qu'en ce cas, regardez, je vais avoir entre mes étapes en rouge, en bleu, je vais avoir une augmentation considérable de l'épaisseur du lithium. Alors qu'à 200 psi, eh bien dans ce cas, mon lithium eh bien, ne va pas augmenter considérablement en épaisseur. Raison, bien, elle est supportée par des études microscopiques où, effectivement, dans le cas de faible pression, on va créer un lithium très poreux, alors que dans le cas, je dirais, des pressions à 200 psi, on va avoir tout simplement du lithium très dense. Et ensuite, eh bien, on peut s'amuser à faire ces genres d'expériences et les généraliser en fonction de la pression, et c'est ce qu'ont fait ces chercheurs, où, là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on peut aller jusqu'à 35 bars et avoir, je dirais, des épaisseurs de lithium relativement, je dirais, faibles. Alors tout ça, c'est un travail qui est très important, car vous savez que cette technologie lithium-métal n'a pu être commercialisée pour des problèmes de dendrite, mais il faut bien réaliser que les chercheurs avaient déjà fait plus de 1000 cycles sur ces accumulateurs. C'est tout simplement le manque de fiabilité de ces accumulateurs. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, quand vous allez directement construire un bobineau, des 1850, eh bien, lorsque vous avez ces phénomènes de lithium à l'état poreux, à l'état dense, selon les densités de courant, selon les pressions, si vous n'avez pas des pressions uniformes, eh bien, vous n'avez pas directement des répartitions de lithium uniformes sur ces accumulateurs, sur les électrodes, et malencontreusement, il arrive que, dans ce cas, il y a des courts-circuits. Mais voilà, si vous voulez, toute cette connaissance qu'il y a sur, ce dépôt et ce retrait de lithium à la surface. De retrait de lithium, et je pense que c'est des connaissances qui méritent d'être revues et d'être regardées dans cette vieille littérature. Ensuite, pour mesurer ces changements d'épaisseur de couche et ces expansions volumiques, eh bien, d'autres méthodes qui ont été développées il y a quelques années aussi, Il y a tout simplement la poussée d'Archimède, ou dans ce cas, eh bien, tout simplement, ça consiste directement à mettre votre pachecelle dans un liquide et fixer ou tenir cette pachecelle avec un mandrin que vous fixez sur une balance. Il suffit directement de mesurer la force sur la balance et vous avez tout simplement le delta V qui est donné tout simplement par cette simple formule indiquée ici, c'est-à-dire la variation de masse sur la balance plus la densité. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je peux réellement, en rouge, vous voyez que les courbes en rouge qui montrent l'évolution de la pression dans le cyclage, eh bien, trace parfaitement les courbes de cyclage potentiel composition. Alors ensuite, eh bien, on peut aller avec des systèmes, je dirais, beaucoup plus complexes, où dans ce cas, eh bien, on peut utiliser des jauges de pression. Vous avez dans ce cas un système qui a été développé au Canada par Jeff Dan, où vous avez ajouté ici à la surface de votre pachecelle une jauge de pression. Et là aussi, eh bien, on peut mesurer, comme vous voyez ici, en rouge, on suit parfaitement ce qui se passe à l'électrode ou lors de la charge et lors de la décharge de la cellule. Donc voilà, si vous voulez, les études qui se font. Alors ensuite, on va adresser les problèmes encore plus importants, c'est-à-dire maintenant, bon, ça c'est grossier, on peut aller voir maintenant ce qui se passe si on va utiliser des carbones différents, voire du silicium, et ainsi de suite. Bien, si on regarde les carbones différents, eh bien ici, vous avez des études dans lesquelles eh bien, des batteries sont cyclées. Selon qu'on ait un graphite artificiel et un graphite naturel, là aussi, ces résultats, ça a été des longs débats pour savoir lequel était le meilleur, ainsi de suite. Et vous voyez ici les courbes de potentiel et surtout les courbes de pression. Vous voyez que noir, eh bien, c'est le graphite artificiel. Vous n'avez pas ou très peu d'augmentation de pression, alors que dans le graphite naturel, en rouge, vous avez de très grandes augmentations. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est tracer tout simplement la variation de pression en fonction du nombre de cycles, et ça confirme que tout simplement le graphite naturel qui est ici, tracé ici en bleu, eh bien, dans ce cas, je dirais, est catastrophique, alors que le graphite artificiel en noir est directement le meilleur composé. Et cela se traduit tout simplement sur les courbes électrochimiques. Vous voyez que la tenue en capacité d'un graphite artificiel est nettement meilleure que celui d'un graphite naturel. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut obtenir de ces mesures, je dirais, de pression sur la nature des graphites. Et enfin, bien sûr, un système qui était, je dirais, une plateforme pédagogique pour montrer de telles études était le système au silicium, puisque vous savez tous que dans ce cas, comme on l'a déjà mentionné, que dans le cas du silicium, vous avez une augmentation de 300% lors du cyclage. Eh bien, effectivement, les mêmes mesures ont été faites sur ce système, et j'ai juste montré les résultats. Le résultat, vous avez ici la capacité, je dirais, normalisée pour le carbone et le silicium. Vous voyez que le carbone, ce qu'on sait tous, nos cellules aujourd'hui, ça tient parfaitement. Sur le silicium, vous voyez, c'est catastrophique. Lorsque j'utilise tout simplement des électrodes de silicium, qui sont à 15 ou 20%, et ça peut s'améliorer. Ensuite, si on regarde au niveau de la pression, c'est-à-dire au niveau de la SEI, vous voyez que dans le cas du carbone, la SEI va très peu changer, c'est-à-dire la pression, alors que dans le cas du silicium, je vais avoir une pression qui va augmenter de façon considérable. Et là aussi, de ce genre de mesures, on peut s'en servir, et des chercheurs l'ont fait, pour caractériser ou classifier les différentes sortes de carbone. Et vous avez ici la plupart des systèmes qui ont été mélangés avec du silicium. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Et vous avez également des systèmes dans lesquels on met, pour améliorer cette SEI, pour qu'elle se forme mieux, c'est du FEC. Mais là aussi, vous voyez des résultats qui sont relativement pas terribles, pour la bonne et simple raison, c'est qu'une fois que cette FEC est complètement utilisée, eh bien, le système directement part et se dégrade. Et bien sûr, notez ici que finalement, on a le meilleur système qui est NMC graphite et qu'on utilise toujours. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qu'on peut faire au niveau pression. Et juste promis, le dernier transparent, c'est que maintenant, tout ça, c'est sûr, je dirais, des parcelles. Qu'est-ce qui se fait en réalité dans des systèmes? Et en réalité, vous allez voir maintenant au niveau des packs, là ça devient, je dirais, un peu plus fantaisiste, où maintenant, eh bien, on a voilà, un pack de batteries. Et vous avez ici finalement la tringle qui va directement assurer la cohésion de ces différents packs. Et ce que font les ingénieurs, ils vont mettre directement une jauge sur cette barre et tout simplement mesurer la variation de la pression lorsque ces accumulateurs vont être chargés ou déchargés. Et ils peuvent corréler, comme vous pouvez voir ici, la variation de pression avec la charge ou la décharge. Tout ça, je dirais, c'est les mesures qui sont les plus répandues qui se font. Et enfin, une dernière mesure qui, je dirais, n'est certainement pas les plus pratiques, mais je pense qu'elle est intéressante d'un point de vue innovation, et du moins elle m'attire, c'est cette mesure dans laquelle, dans ce cas, on va utiliser les courants de Foucault. Alors, qu'est-ce que c'est le courant de Foucault ? Vous avez directement une bobine et vous avez votre accumulateur. Okay, vous avez une plaque métallique ici. Et dans ce cas, vous allez avoir un courant, vous allez induire un champ électromagnétique qui va créer un courant de Foucault dans votre plaque électromagnétique métallique. Ce courant de Foucault va régénérer un champ inductif qui va être sans inverse et un courant sans inverse. D'où vous mesurez finalement ce courant qui va être fonction de la distance entre votre bobine et votre pièce métallique. Et grâce à ça, eh bien, vous pouvez également mesurer, en fonction du cyclage, quelle va être finalement la respiration de votre électrode et de votre accumulateur. Alors bien sûr, alors vous voyez, ça a été fait à l'échelle, je dirais, même de la microlithographie. Vous voyez la bobine. Voilà ici, bon, bien sûr, parce qu'il y a des capteurs en température pour mesurer également en température ce qui se passe. Parce que bien sûr, ces métaux et tout ça, la variation de la température est importante, donc il faut la contrôler. Et on peut arriver à ce compte-là, à avoir aussi des corrélations entre cet espace et les courbes de charge et de décharge. Donc voilà, si vous voulez, à peu près résumer tout ce que je pouvais vous dire sur ce qu'est les mesures électrochimiques. On aurait pu, bien sûr, beaucoup aller dans encore plus de détails, et également sur systèmes de pression, sur lesquels, dans ce cas, on y reviendra un peu par les méthodes optiques et voir comment on peut avoir accès aux mêmes choses. Donc je terminerai là-dessus. Voilà, merci à vous.